RCF.
Sébastien Anthony, bonjour.
Bonjour Véronique.
Vous êtes religieux assomptionniste, prêtre, et vous êtes directeur du pèlerinage national de Lourdes, qui a lieu chaque année autour du 15 août. Alors c'est un des grands temps forts, non seulement du sanctuaire de Lourdes, mais aussi de la famille assomptionniste. On va comprendre pourquoi dans quelques instants. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce temps? Vous fréquentez Lourdes depuis longtemps. Qu'est-ce que ça représente?
Alors ça fait effectivement une trentaine d'années que je viens à Lourdes dans le cadre de ce pèlerinage tous les étés. Et c'est un rendez-vous de famille en fait, c'est comme une grande cousinade au milieu de l'été si vous voulez, puisque je suis assomptionniste et que j'y retrouve sur place non seulement des frères assomptionnistes, des sœurs de la famille de l'Assomption aussi qui sont présentes, et puis les hospitaliers, les malades aussi qui sont présents, les pèlerins qui sont là. En fait c'est un rendez-vous au cœur de l'été qui à la fois permet d'avoir pour beaucoup et pour moi en particulier un été un peu spirituel entre le temps de la plage ou des repos qu'on peut avoir et puis préparer la rentrée aussi puisqu'il se tient autour du 15 août et que 15 jours après eh bien, c'est le 1er septembre et c'est la reprise. Donc c'est vraiment un très bon moment de ressourcement et puis de préparation aussi d'une année qui s'ouvre.
Pourquoi est-ce que les assomptionnistes sont si impliqués dans ce pèlerinage national et qu'est-ce qui vous lie à ce lieu, à ce sanctuaire?
En fait, les assomptionnistes, donc mes frères assomptionnistes, ont fondé le pèlerinage national il y a tout juste 151 ans. C'est la 151e édition cette année. Donc en 1873, la France sort de la guerre, l'empereur n'est plus là. Il y a eu, enfin, c'est toute une période politique aussi qui a été extrêmement troublée, une France aussi qui est à genoux. Et il y a un mouvement populaire qui se met en place, et notamment piloté par l'Assomption et les assomptionnistes de l'époque, de dire il est temps de se retourner vers Dieu, d'organiser en tout cas quelque chose vers Dieu, non pas à partir des élites ou des personnes qui décident, parce qu'elles ont déçu depuis 1789, les gouvernements, les élites, les penseurs se succèdent et les régimes changent et finalement les gens souffrent, mais à partir des gens, à partir de ce que les gens vivent effectivement. Donc très très populaire. Et il se trouve que Lourdes, eh bien le train passait à Lourdes. C'est aussi simple que ça, le train passe à Lourdes.
C'était vraiment l'avènement de la voie ferrée.
De la voie ferrée, donc commode, facile pour y accéder. Parce qu'un an plus tôt, en 1872, il y a un premier pèlerinage qui avait été tenté à la Salette, premier pèlerinage national à la Salette, où là c'est beaucoup plus compliqué de se rendre à la Salette. Si les auditeurs connaissent le lieu, c'est vraiment en montagne, enfin voilà, il n'y a pas de train qui y mène. Du coup ils ont dit, pour faciliter peut-être les choses, Lourdes commençait à émerger, la reconnaissance des apparitions était faite, c'était assez récent puisque les apparitions datent de 1858. Voilà, très simplement et très facilement, ça s'est organisé grâce au chemin de fer.
Sébastien Anthony, si on devait raconter à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler l'histoire de ces apparitions, vous le disiez, quelque chose de très simple et de très populaire parce que cette jeune fille, Bernadette Soubérousse, elle est issue d'un milieu pauvre. C'est à elle que c'est arrivé dans des circonstances qu'on connaît si on s'est un peu intéressé à ça. Hein. Il y a des PV d'audition par la police. Cette jeune fille, elle dit qu'elle a vu une dame.
Elle a vu quelque chose, aquero, comme elle disait, donc aquero, cela,
en patois bigourdant.
Effectivement, vous décrivez Bernadette comme pauvre et c'est vrai que c'est important et c'est constitutif aussi justement de ce monde populaire qui continue à finalement venir dans ce lieu. Mais pas seulement, elle était aussi malade. Et donc il y a une dimension aussi par rapport à la guérison, par rapport à la maladie aussi.
Elle souffrait de problèmes respiratoires.
Exactement, il y avait eu une épidémie de choléra dans le Lourdes de l'époque qui l'a touchée. Elle en est restée asthmatique toute sa vie, de petite taille. Enfin voilà, elle était très 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 frêle et très très maladive finalement. Mais de fait, elle est effectivement issue d'une famille extrêmement... Alors pas au départ, elle était sa famille, son père était meunier. Et les meuniers gagnaient bien leur vie, hein. Il n'y avait pas de souci, mais simplement avec la mécanisation du 19e siècle et toute cette révolution industrielle qui se met en place, la mécanisation des moulins fait que les emplois se font plus rares et du coup la famille Soubirous a été... Très rapidement, avec une déchéance sociale d'une certaine manière, en se retrouvant avec plus rien du tout, avec des accusations aussi qui ont pu être portées contre le père Soubirous, qui a été emprisonné, donc également avec un regard à l'époque comme aujourd'hui, hein, sans doute, ben tiens, c'est la fille du tolard, c'est la fille de ce, voilà, on les regarde avec un regard vraiment, vraiment, vraiment oblique. Et au moment des apparitions, la famille trouve refuge dans ce qu'on appelle le cachot, qui est l'ancienne prison de la ville, un lieu qui n'était même plus donné aux prisonniers de la ville parce que vraiment insalubre. Et cette famille va vivre là le début des apparitions.
Combien d'apparitions ont lieu ?
Alors 18, qui court sur l'année 1858 avec la première, donc le 11 février, qui est devenue aujourd'hui la fête de Notre-Dame de Lourdes, et qui va se terminer en juillet. La dernière apparition a lieu en juillet.
À partir de quel moment est-ce que on commence à dire que ça n'est pas quelque chose ou quelqu'un, mais la Vierge Marie? Et comment la chronologie des faits après se déroule-t-elle jusqu'à la reconnaissance ?
Alors, de fait, Bernadette, finalement, dans sa simplicité, une forme de prudence et de sagesse aussi de cette jeune fille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'a jamais dit que c'était la Sainte Vierge au départ, en tout cas, hein, disant « c'est cela, cela m'a parlé, la belle dame, la jeune fille m'a parlé », et encore par le peu au début. Et Bernadette justement se met en tête à la demande de toutes les personnes qui l'entourent, mais demande-lui son nom, comment s'appelle-t-elle ? Et elle va lui demander, elle va lui répéter, elle va même lui tendre du papier et une plume pour qu'elle écrive son nom. Et l'apparition lui dit « ce que j'ai à vous dire, je n'ai pas besoin de le mettre par écrit ». Et il va falloir du temps jusqu'à ce que la Vierge dise son nom un peu complètement énigmatique pour cette jeune fille, de dire « je suis l'Immaculée Conception ». Et encore, elle le dit dans le patois de Lourdes. Et là, à ce moment-là, Bernadette court jusqu'au presbytère, rencontre le curé Peyramale, qui était le curé de Lourdes, et lui répète « que soy la Immaculada Concepsu »,« je suis l'Immaculée Conception », voilà ce qu'elle m'a dit, comment elle s'appelle. Et là, le curé, ma foi, est complètement interdit, parce qu'une seule personne peut dire cela. En aucun cas, la jeune fille aurait pu inventer cette expression. Le dogme de l'Immaculée Conception, donc cette vérité à croire que l'Église doit croire, selon la demande en tout cas du pape de l'époque, datait de 4 ans avant les apparitions. Et donc du coup, l'expression était à peine connue, on va dire, des théologiens, peut-être des prêtres, mais certainement pas d'une gamine d'un petit village oublié des Pyrénées. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on s'est dit, bah là, c'est pas simplement quelque chose, c'est peut-être la Mère de Dieu, la Vierge Marie.
Passe hein, sur les enquêtes qui sont menées de la part des autorités civiles, de la part de l'Église, parce qu'il y a une très grande prudence. Et en parallèle, ce qui est impressionnant, c'est de voir la manière dont le peuple s'empare de ce lieu, de ces manifestations. Et ça dépasse même, ça déborde les autorités en question.
Exactement. Les gens viennent et viennent de plus en plus. D'abord, évidemment, les Lourdais, et puis ensuite les personnes alentour. Et très, très vite, il y a des gens de... Encore une fois, le train était déjà là. Donc les gens de Paris aussi viennent. Vous savez, on est dans une zone thermale du côté de Lourdes. Donc on y prend aussi les eaux avec Cotteret qui n'est pas très loin. Donc on vient là. Et il y a des gens éduqués, entre guillemets, qui viennent par là, des journalistes notamment, et qui s'emparent de l'affaire et qui vont très vite dire « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?»
Ça se sait.
Ça se sait, ouais. Et ça se dit, et ça se dit. Alors au début, en se moquant, hein, en aucun cas, la pauvre Bernadette, et même l'apparition lui fait faire des choses comme se mettre à quatre pattes, creuser la boue, des choses comme ça qui la font traiter de folle en fait.
Manger de l'herbe,
les gens la disent complètement folle. Mais pourtant ce mouvement populaire, encore une fois, d'une jeune fille sans aucune prétention, sans aucune éducation, qui est là, qui vient, qui est fidèle à cet appel de la Vierge qui lui a dit dans la première apparition « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Eh bien, voilà, les gens suivent, les gens viennent et les gens découvrent ce lieu. Alors effectivement, il y a tout l'imaginaire qui peut exister, notamment toute la représentation de cette rencontre entre cette jeune fille de Lourdes, Bernadette Soubirous, et la Vierge Marie, qui est représentée à peu près dans le monde entier, je crois, puisque ces représentations de grottes de Lourdes existent un peu partout, et tout le monde connaît l'histoire de Lourdes. Alors il y a l'histoire, encore une fois, la grande histoire, et puis il y a l'histoire personnelle aussi, parce que dans le message de la Vierge Marie, il y a cette phrase qui est le thème de cette année, le thème de notre pèlerinage. On a repris cette phrase de la Vierge Marie, « venez ici en procession ». Et cet appel finalement à venir ici en procession, il est lancé très largement pour n'importe qui, et n'importe qui avec sa propre histoire, pour construire son histoire aussi et une histoire spirituelle à Lourdes. En fait, Lourdes, depuis Bernadette, c'est l'histoire d'une rencontre avec la Vierge Marie qui se fait par la porte, par plusieurs portes en fait, parce que Lourdes est un lieu qui concentre pour moi plusieurs signes, plusieurs portes d'entrée. Il y a celle du service, par exemple. On n'est pas nécessairement chrétien quand on va à Lourdes. Il y a beaucoup de personnes qui sont simplement, et c'est déjà beaucoup, généreuses, et qui disent « voilà, je veux me mettre au service ». Et on sait qu'à Lourdes, il y a des personnes malades, donc je me mets au service de ces personnes malades. D'autres qui sont pieuses, qui ont envie de prier, qui ont besoin d'un moment important, d'une prière portée par une foule, et qui viennent à Lourdes. D'autres qui, justement, un petit peu dans le même sillon de la foule, qui peut-être sont isolées chez elles, et qui viennent à Lourdes parce qu'on sait qu'on va y trouver du monde. Voilà, il y a plusieurs portes d'entrée, et plusieurs manières finalement d'écrire son histoire avec Lourdes. Mais ça reste, comme pour Bernadette, l'histoire d'une rencontre.
Sébastien Anthony, je rappelle que nous évoquons avec vous dans cette série Halte spirituelle le sanctuaire de Lourdes, les pèlerinages qui s'y vivent chaque année, notamment à l'occasion du pèlerinage national qui a lieu tous les ans autour du 15 août. Alors on a retracé précédemment l'histoire des apparitions qui marquent l'histoire de Lourdes et on en était resté aux pèlerinages un peu spontanés qui ont lieu très rapidement. Alors il y a des curieux mais il y a aussi des gens de foi et puis interviennent ce que l'Église a déclaré comme étant les premiers miracles, c'est-à-dire que très vite des gens malades et notamment une femme, vient et est guérie.
C'est ça. C'est une femme qui arrive d'un petit village à côté, qui avait une main atrophiée, qui avait un problème en tout cas d'articulation et qui trempe sa main, son bras, dans la source que Bernadette venait, la source d'eau que Bernadette venait de découvrir à la demande de l'apparition qui lui a demandé de creuser le sol. Donc elle creuse effectivement le sol. Et une source, en tout cas, rejaillit. Et cette source coule toujours aussi, bien sûr, aujourd'hui. Et donc, cette femme va tremper sa main et va se retrouver guérie. Et de fait, ça a été le premier miracle, en tout cas, authentifié, reconnu. Aujourd'hui, il y en a une soixantaine de reconnus par l'Église, même si sans doute beaucoup d'autres ont eu lieu et beaucoup de personnes se déclarent guéries à Lourdes, mais c'est toute une procédure assez longue pour une reconnaissance de miracle. Mais en tout cas, effectivement, très vite, et avec ce miracle-là, cette guérison, Lourdes a très vite été associée justement à cette dimension de la guérison du malade, de la place pour les malades.
Depuis, ça ne s'est jamais démenti. Les malades sont à la première place à Lourdes. Alors pourquoi mettre l'accent en particulier sur ces personnes-là? Après tout, ça pourrait, comme dans d'autres sanctuaires, faire partie des gens dont on prend soin. Mais là, à Lourdes, c'est pas ça. C'est les premiers. C'est eux qui sont placés devant dans les célébrations. Tout est organisé pour leur faciliter la vie et les accueillir.
Exactement. Alors ce que je disais un peu plus tôt, Bernadette elle-même était malade. Donc la dimension de la maladie est déjà portée par la voyante d'une certaine manière. Et la notion de guérison est quelque chose qui traverse l'Évangile, qui traverse l'Écriture. Donc c'est pas du tout étranger au monde religieux, au monde de l'Église. Ce qui s'est passé en tout cas pour l'arrivée massive des malades est né un petit peu justement dans le cadre du pèlerinage national. Parce que donc en 1873, le premier pèlerinage s'organise avec ces trains qui partent des quatre coins de France.
Donc organisé par les Assomptionnistes.
Par les Assomptionnistes, oui. Et dans les gares, un peu comme aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont un peu désœuvrées, qui voilà. Et là, de fait, il y avait beaucoup de personnes désœuvrées, dont des personnes malades qui étaient là. Et alors, je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées pour que le directeur de l'époque dise, mais pourquoi ne les emmènerions-nous pas à Lourdes aussi? En tout cas, quelque chose s'est passé. Et les premiers frères, les novices notamment, ont conduit ces malades. Il n'y avait absolument rien de prévu pour eux hein, sur place. On logeait chez l'habitant. Toutes les infrastructures que l'on connaît de Lourdes aujourd'hui, hôtelières, les accueils Notre-Dame ou Saint-Fray, qui sont des accueils prévus pour accueillir des personnes malades, n'existaient pas.
Il faut rappeler que Lourdes était un village. Hein,
un tout petit village. Perdu et vraiment pas connu sur la carte. Et du coup, bah, très vite, ça s'est organisé. Et les sœurs du Calvaire, donc les sœurs de Saint-Fray, de Marie Saint-Fray, qui fêtent d'ailleurs cette année les 150 ans de la fondation de leur maison d'accueil à Lourdes, ça a été fondé en 1874, donc un an après le premier pèlerinage, ont commencé à accueillir chez elles, alors sur des paillasses, de manière très très simple au départ, ces malades qui arrivaient de plus en plus nombreux, qui étaient considérés à Lourdes en fait. Parce que dans le message de la Vierge à Bernadette, Bernadette disait « Elle me regardait comme on regarde une personne ». Et cette identité retrouvée, finalement, ce respect de la personne, encore une fois, un malade, aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais en tout cas au 19e, la maladie, on la cache, on ne la montre pas, c'est une tragédie. Les malades ne vivent pas très vieux, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de soins
adaptés. Il n'y a pas de soins, voilà. Ouais. Et là... Donc en gros, malade veut dire personne qui ne sert plus à rien et dont on peut précipiter la mort. Le sujet peut revenir d'une autre manière aujourd'hui.
C'est tout à fait d'actualité.
Exactement. Et là, justement, on casse cette vision-là et on entre dans une dimension de soins que l'Église a toujours eue hein, pour les malades. Mais elle me regardait comme une personne. Et cette phrase de Bernadette, je crois, a fait son chemin, en tout cas, dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont... Bah, redécouvert finalement digne d'exister, d'une vie qui vaut le coup d'être vécue, au-delà de la maladie, au-delà des difficultés à vivre, quelque chose pouvait continuer à exister dans leur parcours de vie. Et Lourdes a permis ça et continue de le permettre aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux.
Ce qui est frappant et touchant à Lourdes, c'est de voir la délicatesse, le soin qui sont apportés aux personnes parfois lourdement handicapées. Il y a une espèce de focus vers ces personnes en situation de fragilité.
Et ce qui est très très beau, c'est que les personnes qui servent ces personnes justement en situation de fragilité ne sont pas des professionnels. Ce sont des bénévoles, ce sont des gens comme vous et moi qui, en tout cas, ne sont pas du tout issus du monde médical.
Qui ne sont pas forcément des soignants, quoi.
Pas du tout, n'ayant même pas nécessairement de formation particulière sur la question, mais qui se mettent simplement au service d'un frère. Voilà, tu as besoin d'aide. Déjà, je vais passer du temps avec toi, je vais essayer de te soulager, être à ton écoute. C'est pas des gestes techniques qui sont posés, c'est simplement une attention à l'autre pour que l'autre existe comme une personne.
Une personne malade qui va en pèlerinage à Lourdes, sa journée ressemble à quoi ?
Alors sa journée, elle est réveillée le matin, elle se réveille par les hospitaliers qui sont présents, avec en général dans la musique, dans le chant, il y a une ambiance extrêmement festive, c'est-à-dire que c'est pas du tout un...
C'est pas plombant.
C'est pas plombant et c'est pas un hôpital comme on pourrait l'imaginer, ouais. Triste, etc., où il faudrait se taire, voilà. Il y a une profonde joie. Je vais prendre un mot qui est très inclusif finalement. C'est-à-dire que les personnes malades ne sont pas considérées d'abord comme des malades, d'abord comme ayant besoin de soins. C'est simplement des personnes qui sont là comme les autres et avec qui on passe un moment important, spirituel, humain, fraternel, chaleureux. Et donc la journée effectivement commence comme toute journée de n'importe qui, par sa toilette matinale, par le petit déjeuner qui est pris en commun. Et puis ensuite, ils sont sont taquets, hein, c'est-à-dire qu'on il y a une volonté de très souvent de participer à tout avec une avidité, un appétit qui est assez impressionnant. Et les hospitaliers et notamment les brancardiers, alors les hospitaliers et les brancardiers du pèlerinage national sont assez jeunes. C'est la chance d'avoir un pèlerinage au cœur de l'été. Il y a essentiellement des lycéens, des étudiants. Du coup, il y a une proximité aussi avec une jeunesse que certaines personnes en EHPAD ou dans des structures ne voient plus, et qui là renouent des liens aussi de intergénérationnels qui font vraiment du bien, qui relient les aînés aux plus jeunes. Et ensuite, eh bien, il y a les célébrations avec la messe du matin qui est le moment de lancement de la journée. Et puis les après-midi, ça se passe évidemment un passage à la grotte, les processions, tout ce qui est proposé. Et puis boire un pot, et puis faire des courses, et puis se détendre. Allez, pourquoi pas, il y a un cinéma à Lourdes qui ne présente qu'un seul film, c'est l'histoire de Bernadette. Mais pour une personne handicapée,
ça peut être
malade,
un vrai moment
ils
de...
Ils n'y vont jamais. Aller au cinéma, c'est inédit pour eux. Et c'est un moment qui est possible.
Parce qu'il faut peut-être préciser pour des auditeurs qui n'y seraient jamais allés que le sanctuaire de Lourdes est assez concentré et que tout se passe à peu près au même endroit. On peut peut-être dire un mot des piscines qui sont aussi un lieu très,
alors voilà,
très marquant.
Les piscines, effectivement, sont au cœur du sanctuaire. Donc le domaine, ce qu'on appelle le domaine de la grotte, le domaine du sanctuaire, rassemble l'ensemble des églises, des basiliques, des lieux de rencontre. Et puis, il y a cet espace, effectivement, des piscines. Alors, encore une fois, si on ne connaît pas le lieu lui-même et qu'on entend le mot piscine, n'imaginez ni une piscine olympique, ni même communale. Ce sont des baignoires qui sont là. Il y en a 18 baignoires en mémoire des 18 apparitions. Et ces baignoires, en fait, alors aujourd'hui vivent une petite transformation parce que le Covid est passé par là, et avec le Covid, des nouvelles mesures ont été instaurées au niveau sanitaire, et donc le bain ne se fait plus de la même manière qu'avant. Hein. Donc aujourd'hui, il y a un geste en plus qui est proposé qu'on appelle le geste de l'eau, qui consiste à se voir par un hospitalier verser de l'eau sur sa tête ou sur ses mains, en signe en tout cas de réponse à ce que demandait la Vierge Marie à Bernadette de venir ici se laver. Et puis, mais tout se fait effectivement sur cet espace que l'on appelle les piscines.
Pour terminer sur cet accueil proposé aux personnes malades, est-ce que leurs soins, leurs traitements continuent ? Vous avez beaucoup insisté sur le fait que les bénévoles, les brancardiers ne sont pas du personnel soignant, mais il y en a du personnel soignant.
Absolument, c'est vraiment traité comme des petits hôpitaux finalement, parce qu'il y a jusqu'à 400-450 lits à peu près, donc c'est une petite clinique en fait.
Ça se trouve où ?
Alors il y en a deux. Il y a deux grands ensembles. Le premier se trouve dans les sanctuaires même, c'est l'accueil Notre-Dame. Et puis un autre qui est en ville, qui est l'accueil Saint-Fray, donc celui qui est le plus ancien d'ailleurs, qui est en ville. Et il y a toute une équipe de médecins, d'infirmiers, de kinés, de dentistes, de pharmaciens. Il y a quasiment tous les corps de métier, si j'ose dire, du monde médical qui sont représentés justement pour veiller au bien-être des personnes, sur les soins, sur les traitements. Voilà. Il y a un vrai accompagnement médical qui se fait.
Il n'est pas question d'interrompre un traitement sous prétexte qu'on est à Lourdes.
Certainement pas. Mais par contre, tous ces médecins, tous ces infirmiers sont bénévoles, présents ici à Lourdes bénévolement dans le cadre justement de ce pèlerinage national.
Sébastien Anthony, je rappelle que vous êtes religieux assomptionniste, prêtre et directeur du pèlerinage national de Lourdes qui aura lieu comme chaque année autour du 15 août. Alors ce pèlerinage national, il attire des milliers de personnes. Tout d'abord, un pèlerinage, qu'est-ce que c'est ? Comment on pourrait expliquer la démarche d'un pèlerin ? Quel que soit d'ailleurs le lieu vers lequel il se dirige.
Je crois que le mot démarche est un mot juste, puisque de fait, il s'agit d'abord dans un pèlerinage de marcher, partir d'un point, normalement depuis chez soi, depuis sa maison, avec ce projet de rejoindre un lieu emblématique, important, d'une apparition, d'un lieu où un saint peut-être a vécu. Voilà. Donc il y a plusieurs types de pèlerinages qui existent. Les plus connus sont bien sûr Rome, la Terre Sainte, Compostelle aussi. Mmh. Historiquement, un pèlerinage se fait à pied. Alors c'est paradoxal, nous on y va on y va en
car ou en train.
En car ou en train. Mais par contre, on marche beaucoup une fois qu'on y est. Mais de fait, il y a ces dimensions-là. Mais surtout de partir de chez soi pour vivre autre chose, pour vivre autrement. Peut-être, c'est le début de la foi, un pèlerinage. Si on se réfère à Abraham, qui est le père de la foi, il a commencé finalement son expérience par un pèlerinage avec cet appel de Dieu qui lui dit « va, pars, quitte ». Et c'est ce qui se passe en fait, c'est quitter un quotidien, quitter des habitudes pour découvrir autre chose, se découvrir soi-même, s'emmener avec soi, parce que si on laisse tout de son existence chez soi, dans sa maison, on s'emmène avec soi, avec ses soucis, ses questions, ses joies, ses préoccupations, ses états de santé parfois aussi compliqués, on l'emmène avec soi pour se remettre sous le regard de Dieu. Et partir pour aller à un but, c'est aussi l'expression finalement de notre vie de foi qui consiste finalement à marcher sur ce pèlerinage terrestre, notre vie en fait, vers la cité éternelle, vers Dieu, vers le ciel, comme on dit, pour vivre vers la sainteté.
Et quelle que soit la formule qu'on choisit, que l'on marche beaucoup ou très peu, dans quelle mesure est-ce que ça demande une certaine audace, un certain courage d'entreprendre un pèlerinage ?
Ça demande effectivement un certain courage, et notamment pour des personnes peut-être plus fragiles qui ont besoin de sécurité ou de lieux de sécurisation. Pour un plus jeune, la question se pose un peu moins, c'est-à-dire voilà, on voyage beaucoup et encore un peu plus aujourd'hui avec des facilités. Pour des personnes peut-être qui voilà, hésitent, ont peur, ne savent pas trop, il y a besoin effectivement de poser une forme d'acte un peu volontaire et courageux que de quitter ça. Mais symboliquement aussi, dans nos habitudes, dans les choses qui sont bien ancrées dans notre vie, dans nos sécurités que l'on s'est posées, parfois nécessaires, parfois fantasmées, quitter ce que l'on connaît n'est jamais simple, et pourtant ça peut nous faire vivre et revivre que de se dire mais on voit un peu plus large finalement que le petit landerneau dans lequel finalement on évolue. Et le pèlerinage est un petit peu à l'image de tout ça et nécessite du courage, mais ouvre tellement de possibles.
Donc ça suppose une forme de dépouillement, parce que ça suppose de quitter son confort, mais ce dépouillement peut être rempli d'autre chose.
Il est rempli, je crois, vraiment de fraternité à Lourdes. Parce que quand on parle des hospitaliers, de la générosité des brancardiers, de la bienveillance des médecins, de l'amitié des personnes malades, de tous les pèlerins qui sont là avec un sourire, une banane affichée sur le visage, on fait le plein de bonté et de bienveillance. On fait le plein pendant ces 4-5 jours d'une forme de repos de la suractivité que l'on peut avoir, ou des problèmes ou des soucis que l'on peut avoir dans son quotidien, où juste là, on est là avec quelqu'un qui a du temps en face de nous, des hommes, des femmes qui sont autour de nous, qui ont du temps pour juste être gentil, ou pour juste être bon, pour juste passer quelque chose d'une relation humaine apaisée et qui fait tellement de bien. Et c'est ça aussi, en fait, je crois, qui justement nous remplit de cette autre chose. Certes, on quitte des sécurités, mais qu'est-ce qu'on trouve quand même la possibilité de sentir que l'on existe pour d'autres. Et ça, c'est extraordinaire.
Ça peut sembler paradoxal, parce que quand on connaît un peu Lourdes, et notamment en plein mois d'août, on connaît l'effervescence qui s'y vit. Il peut y avoir beaucoup de monde, il peut y avoir un peu d'agitation, les rues sont bondées. Est-ce qu'il y a malgré tout un esprit, un climat d'intériorité, un climat de prière tel qu'on pourrait le trouver dans des lieux moins fréquentés ?
Alors, il ne s'agit pas de s'inventer une vie ou d'être différent quand on est en pèlerinage. Alors de fait, il y a cette dimension, on ne va pas jouer au pèlerin ou au petit gâteau quand on est à Lourdes, en fait, c'est ça que je veux dire. En revanche, donc il y a une vie qui continue, on s'amuse, on boit un pot, la vie ordinaire.
Il y a plein de bars à Lourdes.
Il y a plein de bars à Lourdes, la vie continue. Mais tout se passe, enfin pour moi en tout cas c'est mon expérience, tout se passe avec une vraie joie de retrouver des gens, d'avoir une simplicité de relation les uns avec les autres. On s'assoit à côté de gens qu'on ne connaît pas du tout, des personnes a priori avec qui on n'aurait jamais lié contact dans la vie ordinaire, notamment des personnes handicapées, malades, intergénérations, tout ce qu'on a pu dire, et chacun existe pour l'autre. Oui, il y a un petit brouhaha, c'est vrai, mais en même temps c'est la vie qui circule et on fait partie de cette vie. Tellement de personnes, justement, notamment malades, sont assises et regardent par la fenêtre le monde en se disant « si seulement je pouvais aller prier, si seulement je pouvais aller manger une glace, si seulement je pouvais… » Et là, tout est possible et tout est facilité dans ce sens-là, où des gens se mettent même à votre service pour pouvoir le faire, porter dans une joie presque contagieuse, pour reprendre un terme médical, mais il y a quelque chose d'une bonne contagion.
Alors, si j'étais un peu dans la provocation, je vous dirais, mais finalement, il y a des festivals l'été culturels, de musique, de théâtre, où les gens se retrouvent autour d'une activité, d'une passion, et où peut-être qu'on peut se lier avec des personnes qu'on n'aurait jamais croisées ailleurs. C'est quoi la différence avec Lourdes ?
Et heureusement que ces festivals existent aussi et que d'autres lieux existent aussi. Mais là, à Lourdes, il y a aussi une dimension spirituelle, hein, une dimension de foi qui est vécue et qui est partagée entre générations, entre personnes. Et cette dimension de foi, c'est de ne tourner ensemble sous le regard de Dieu. Un festival, aussi beau soit-il, et j'aime beaucoup ça, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de dépréciation, ben ça dure un temps et c'est fini. La foi, elle nous conduit toute notre vie, elle se pratique tous les jours, la prière, le lien existe les uns avec les autres. Là, cette année particulièrement, on va insister sur une prière que tout le monde connaît, mais qu'on va vraiment remettre à l'honneur et peut-être se la redonner un petit peu comme la prière des pèlerins du National, qui est la prière de l'Angélus. À midi, alors pendant les 4-5 jours que va durer le pèlerinage sur place du 12 au 16 août, très bien, on va le faire ensemble, mais tous les 361 jours, autres jours de l'année, jusqu'au pèlerinage suivant, ça sera un moyen de communion qui continue. Donc c'est pas simplement le feu d'artifice d'un festival d'été où on est bien ensemble, ça dure et ça se poursuit, ça se prolonge.
Pourquoi l'Angélus ?
L'Angélus, parce que d'abord c'est une prière qui est ancienne, dans le sens où elle est connue des petits, des grands, qu'elle surprend personne, et puis elle est à midi, alors également le matin et le soir, mais à midi, un petit peu pour se donner une heure où tout le monde, en tout cas midi, veut dire quelque chose pour chacun. C'est le moment où, a priori, on arrête son activité, on va déjeuner. Il y a quelque chose du milieu de la journée qui nous pose, où on se retourne ensemble en communion, même si encore une fois, quand on sera retourné chez soi, on ne sera plus avec les autres, mais on sait que les autres le feront aussi. Au milieu de notre journée, eh bien, on se retourne vers Dieu, on se retourne vers l'essentiel. Voilà. Et tout simplement, et c'est une prière très courte, très facile, et qui dure 5 petites minutes, et qui permet d'être en communion.
Donc ça signifie que pendant ce temps, dans le sanctuaire de Lourdes, tout
s'arrêtera,
va s'arrêter.
Tout s'arrêtera, et on fera passer sur les haut-parleurs du sanctuaire cet Angélus. Alors, le tout nouveau maître de chapelle de Lourdes, qui s'appelle Isaiah Ravelli, qui vient d'arriver, a composé une musique pour justement porter cet Angélus. Donc on l'apprendra en musique aussi, ce qui permet de le vivre aussi de manière un peu plus festive peut-être, et de l'inscrire dans son cœur et dans sa mémoire. L'ensemble des accueils qui accueillent les personnes handicapées, malades, parce qu'elles seront bien évidemment à table à ce moment-là, s'arrêteront aussi. Et on priera dans les haut-parleurs de l'ensemble cet Angélus. Donc il y aura une forme de grande communion qui se vivra à ce moment-là.
Alors puisqu'on parle des raisons qui peuvent pousser à entreprendre ce pèlerinage, que l'on soit valide, que l'on soit malade, et qu'on soit dans une souffrance physique ou morale ou psychique, est-ce que l'objectif, le but du pèlerinage à Lourdes, c'est d'aller à la grotte ?
Alors la grotte, c'est un petit peu le point rencontre, le point focal, parce que c'est le lieu des apparitions. Marie est venue dans cette grotte. Alors, la grotte de Lourdes est au bas de la ville, et le Gave, donc la rivière qui traverse la ville, charriait jusque-là toutes les immondices de la ville. C'était le grand égout de la ville. C'est là où le porcher gardait les cochons de la ville. Donc c'est un lieu sale. Puis aujourd'hui, rassurez-vous, aujourd'hui tout a été nettoyé, mais en 1858, au moment des apparitions, c'est le lieu le plus dégoûtant de la ville finalement. Et c'est là que Marie va venir. Elle ne viendra pas dans un lieu noble, elle aurait pu venir dans l'église paroissiale par exemple, ou je ne sais où. Non, elle vient dans le lieu le plus dégoûtant. De là va sourdre une fontaine, et on va découvrir que sous la boue finalement, il peut y avoir de l'eau vive. Et parfois, on peut tout à fait s'identifier même toute sa vie, à ce rocher finalement, où nos vies, elles sont faites de ce qu'elles sont, alors pas nécessairement de choses monstrueuses, mais enfin bon, on a tous des casseroles, on traîne tous des choses dont on n'est pas très fier.
Des déchets dont on aimerait bien se débarrasser.
Exactement, et découvrir que ces déchets-là ne font pas peur à Dieu, et au contraire peuvent être une occasion de rencontre avec Dieu. Marie est venue là, donner un mot, une parole de la part de Dieu. Et chacun peut vivre cette expérience-là dans toutes les grottes de sa vie. Alors, il y a la grotte de Lourdes, oui, mais il y a aussi la grotte de sa propre vie. Puis après, quand on y est, on voit un flot quasiment ininterrompu de pèlerins qui rentrent dans la grotte, qui posent la main sur le rocher. Bien sûr, il y a cette image aussi du Christ, le rocher sur lequel fonder sa vie. Et puis moi, ce que j'aime bien voir aussi, bon, c'est très personnel, mais j'aime assez, elle a une forme complètement triturée, cette grotte, on dirait une oreille. On dirait une oreille, et j'aime beaucoup y voir l'oreille de Dieu d'une certaine manière, enfin symboliquement évidemment, mais toutes ces personnes qui rentrent à la queue leu-leu, forcément, elles ont des choses à dire à Dieu.
Elle lui chuchote quelque chose à l'oreille.
Elle lui chuchote quelque chose à l'oreille, et j'aime beaucoup ça.
Sébastien Anthony, l'image qui est associée à Lourdes et qui ne manque pas de faire sourire les plus critiques, c'est celle du miracle. Lourdes, c'est les miracles. Ils ne sont pas si nombreux finalement à avoir été reconnus de manière très officielle par l'Église avec tout un tas d'enquêtes, notamment médicales. Est-ce que quand on va à Lourdes, il faut s'attendre à un miracle?
Alors, Je crois pouvoir dire, pour avoir discuté avec Bernadette Moriot, qui est la dernière miraculée, elle n'est pas venue à Lourdes, elle, pour être guérie.
Elle souffrait d'une maladie incurable. Hein.
Exactement. Elle n'est pas venue pour ça. Et je crois, peut-être, c'est le secret de chacun, peut-être que secrètement, des malades disent « Ah ben, j'irai à Lourdes, je serai guérie, et pourquoi pas ?» Mais fondamentalement, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la motivation de ceux qui sont effectivement guéris. Après, que ça existe, sans doute. Et puis, pour l'un, ça va être une guérison. Pour l'autre, ça va être la réussite à un examen. Pour l'autre, ça va être, je ne sais pas, ça va être le désir d'un enfant exprimé. Il y a plein de choses aussi. Chacun vient avec une prière. En fait, c'est ça. On vient à Lourdes d'abord avec une prière, avec sa vie, avec un désir, avec un souhait, avec quelque chose dont on pense que ça nous rendrait plus heureux, ou que ça nous comblerait, pour soi ou pour d'autres, parce que les pèlerinages, on le fait pour soi comme pour d'autres aussi. Et alors, est-ce que l'on est effectivement instantanément guéri? Est-ce qu'il se passe des choses comme ça? Je vous avoue que je vais peut-être choquer hein, vos auditeurs, mais pour moi, c'est vraiment pas le problème. Enfin, à la limite, je vais le dire de manière encore un peu plus crue, je m'en fous. Je respecte profondément hein, des personnes qui effectivement font cette démarche dans ce sens-là. Mais Lourdes, c'est d'abord une expérience pour moi vraiment de fraternité. Et ça, par contre, tout le monde peut le vivre. Parce que, encore une fois, vous l'avez dit, il y a une soixantaine de miracles reconnus en plus de 150 ans d'histoire. Ça fait pas...
C'est pas énorme.
C'est pas énorme. Donc, c'est pas... Voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Alors, on vous dira, mais si, il y en a beaucoup d'autres qui sont pas reconnus par l'Église. Sans doute. Mais c'est pas ça qu'on recherche. Et Lourdes continue à attirer et on y vit quelque chose. Donc, le premier miracle, peut-être, c'est que Lourdes continue à exister, en tout cas, et à drainer autant de monde et d'accueillir autant de monde. Mais le grand miracle pour moi, c'est ce temps où on change d'attitude. On l'évoquait un peu plus tôt, les malades, les personnes en fragilité, en vulnérabilité sont les premières servies, sont mises en avant. Il y a quelque chose d'un nouveau monde qui que l'on voit poindre, quelque chose qui se rapproche de ce qu'on dit dans l'évangile du royaume, ce moment où ben voilà une autre manière de vivre est possible aussi, où le plus pauvre a sa place, où l'on se sert dans le sens de service les uns des autres. Et là, il y a quelque chose de miraculeux, parce qu'on ne le voit pas beaucoup dans la société.
Il y a quelque chose d'inversé, et c'est un peu les béatitudes, non, Lourdes? Bienheureux les malades, bienheureux les pauvres. Non pas qu'ils ont de la chance d'être pauvres ou d'être malades. Hein.
Non, c'est pas la question. C'est de dire, en gros, la différence... on estime aujourd'hui, et dans l'actualité, on parle de dignité, et comme réponse à la dignité, on propose la mort, finalement, selon la loi qui est en cours de préparation. Eh bien, la dignité, elle se résume pas à ça. La dignité, elle n'est surtout pas ça. La dignité, elle passe par le service, par l'accueil de l'autre, ou en gros... La maladie, alors on va pas faire comme si elle n'existait pas, je ne suis pas malade et je me permettrai jamais de dire « Oh, c'est pas très grave ce que tu vis, il y a des choses plus importantes à vivre, etc. » Ça serait insultant et monstrueux pour une personne qui porte un handicap et une maladie. Mais en gros, on ne voit pas d'abord le malade, on voit d'abord la personne, et la personne dont la dignité n'est ni plus élevée, ni moins élevée que la mienne, mais simplement un frère à aimer. Et ça, c'est déjà une conversion du regard, et c'est peut-être le premier miracle de Lourdes. Alors on parle effectivement de renversement des valeurs, de monde renversé ou de monde à l'endroit aussi, certains aiment bien cette expression-là. Finalement, Lourdes, c'est le monde à l'endroit, le monde selon l'Évangile. Parce qu'effectivement, la maladie n'est plus d'abord un problème ou quelque chose d'insoluble ou à gommer. Encore une fois, je dis bien, il ne s'agit pas de faire comme si elle n'existait pas ou qu'il faudrait relativiser les choses, ce n'est pas ça. Mais de dire, tu n'es pas que malade, tu n'es pas que ta maladie, tu n'es pas que ton handicap, bien au contraire, tu es d'abord un homme, une femme, un frère à aimer, une sœur à rencontrer, différent, oui, mais de toutes nos différences aussi. Finalement, qu'est-ce que ça voudrait dire que d'être en pleine santé? Est-ce que quelqu'un est en pleine santé? Enfin, je ne sais même pas si ça existe. Mais là, en gros, de vivre cette fraternité universelle. Voilà ce que propose Lourdes, et c'est peut-être ça le premier miracle.
Ça veut dire l'expérimenter, en faire l'expérience, et ça suppose de passer un peu de temps quand même sur place, parce que on peut être déçu par Lourdes, arriver en se disant je vais voir un truc extraordinaire, magique, et puis se retrouver devant une grotte dont vous disiez qu'elle a quand même une forme un peu bizarre, avec une espèce de statue en plâtre qui est censée représenter la Sainte Vierge et des gens qui prient devant.
Ah ben c'est sûr, encore une fois, on peut avoir le regard, on va dire, très extérieur d'une personne qui regarde et qui ne comprend pas ce qui se passe, si ce n'est qu'elle apercevra quand même que quelque chose se passe dans le cœur de ces personnes qui sont là à prier devant la statue de plâtre, comme vous dites. Il se passe quelque chose dans leur cœur. Il se passe quelque chose parce que d'abord elles sont là. Elles sont là sur un moment un peu long, c'est effectivement ce que vous disiez. Je pense que si effectivement on vient à Lourdes comme on visite une attraction...
Il n'y a pas grand-chose à voir.
Il n'y a pas grand-chose à voir. En plus, et on l'entend, oui, Lourdes, les commerces, etc. qui sont autour. C'est vrai que moi, la première fois que je suis arrivé, il y a une des rues de Lourdes, on dirait que c'est Las Vegas avec des choses qui clignotent partout, des enseignes, etc. Si on s'arrête effectivement à ça, eh bien on sera toujours extérieur et toujours à la surface des choses. Une fois qu'on accepte de dépasser, allez, avouons parfois, ce qui est un petit peu une excuse finalement pour se dire j'y vais pas parce que voilà, mais enfin bon, sans y avoir été, parce qu'on m'a dit que. Une fois qu'on a dépassé cette écorce-là, cette surface, il y a autre chose à vivre. Et justement dans cette simplicité du sanctuaire, où alors là, il n'y a plus du tout de vierge à vendre dans le sanctuaire, c'est ce que vous dites, c'est d'une simplicité où il n'y a plus que soi et le bon Dieu. Soit et la Vierge Marie, soit son histoire à confier dans la prière et dans le silence de ce lieu, puisque le lieu de la grotte est un lieu silencieux, où on peut tout dire à Dieu. Et finalement, c'est l'espace le plus précieux, s'offrir aussi longtemps qu'on le souhaite, un espace où on peut parler à Dieu. On peut le vivre n'importe où ailleurs, pas besoin d'aller à Lourdes. Mais il se trouve que dans ce lieu-là, Marie, et quand on croit aux apparitions et quand on croit en Dieu, nous dit de venir là. De venir ici dans un rendez-vous où d'autres prennent rendez-vous aussi, où on n'est pas seul, où on est entouré d'autres personnes et où la fraternité peut commencer à exister, puisque au moins on n'est pas tout seul, on est entouré d'autres personnes.
On peut dire aussi que Lourdes, c'est un peu un concentré du monde, avec une multitude de nationalités, d'états de vie. On croise des évêques qu'on reconnaît juste à leur croix pectorale, mais qui sont en bras de chemise. On croise des petites religieuses venues de l'autre bout de la terre. On croise des familles.
Vous entendez toutes les langues du monde, ou à peu près. D'ailleurs, le grand chant de l'Ave Maria de Lourdes, qui est, je pense, l'international catholique, en tout cas, le chant connu et chanté à peu près partout, a été traduit dans à peu près toutes les langues qui sont dans le monde. De fait, il y a un grand brassage. Ça aussi, ça fait partie du miracle de Lourdes, finalement, d'unir dans ce lieu qui vraiment paye pas de mine, comme vous le disiez, et qui est perdu au fin fond des Pyrénées. J'aime beaucoup les Pyrénées, c'est pas du tout la question.
Moi aussi.
Mais c'est vraiment de se dire, voilà, comment est-ce que finalement la Terre entière se donne rendez-vous ici et prie ici. Moi, ça me dépasse complètement. On voudrait l'organiser, qu'on saurait pas le faire. Enfin, ça n'existe pas ailleurs, un lieu comme celui-là, depuis si longtemps en tout cas. Et il y a quelque chose là de divin.
La dimension un peu superstition, qu'est-ce qu'on en fait ? Toucher un rocher, ramener de l'eau dans des bidons en plastique, ramener un bracelet, c'est quoi ? C'est la foi populaire, ça fait sourire, il faut prendre ça au sérieux ?
Pour moi, c'est des gestes de tendresse, c'est une manière de... Quand on est amoureux, on fait des trucs complètement dingues qui... regarder de loin et de haut, on se dit mais à quoi ça peut servir de, je sais pas, déposer un petit post-it. Alors je suis prêtre, on m'a dit, hein. mais voilà des petites choses qui paraissent complètement futiles, inutiles, mais qui changent tout en fait, qui changent tout. Et ben amener de l'eau de Lourdes à son voisin ou à sa voisine, et ben c'est j'ai pensé à toi et j'ai prié pour toi. C'est juste un geste et en plus on amène quelque chose de là-bas du lieu. Gratuitement. Parce que tout pèlerin qui va à Lourdes au moins une fois, je vous garantis, si vous l'annoncez autour de vous, vous trouverez au moins une personne qui vous dira « Tu prieras pour moi, et puis tu feras brûler un cierge, et puis tu me ramèneras un petit peu d'eau. » Eh bien, on le fait.
Et qu'est-ce que ça dit, ça ? Même de la part de gens que, la plupart du temps, ça fait sourire.
Eh bien, justement, il y a un attachement. Il y a un attachement parce qu'on sait que la vie, c'est pas simplement des idées ou quelque chose de très intellectuel ou de désincarné. On a besoin de passer par des petits gestes. Encore une fois, des gestes d'amoureux. J'aime beaucoup reprendre encore des gestes inutiles. Il n'y a pas plus inutile que de faire un baiser. Quand on regarde le geste que c'est de pincer les lèvres, bon, intellectuellement, et pourtant, ça change tout. Ça change tout. Et c'est du même ordre. C'est du même ordre. J'ai pensé à toi, j'ai prié pour toi ici, tu comptes pour moi, je te fais partager ce que j'ai vécu, c'était important, tu es avec moi. Voilà tout ce qui se dit dans ces gestes simples que tout le monde peut poser. Que tout le monde peut poser. Parce que justement, c'est pas intellectuel, c'est pas intello, c'est pas perdu dans les idées.
Dernier entretien de cette série Halte spirituelle, Père Sébastien Anthony, pour évoquer Lourdes, le pèlerinage national de Lourdes ou les pèlerinages, parce qu'il y en a tout au long de l'année, notamment des pèlerinages diocésains. Il y a des tas d'occasions d'aller à Lourdes. D'ailleurs, vous conseilleriez plutôt d'y aller avec un groupe ou bien on peut faire la démarche en étant seul ?
Tout est possible selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Parfois, on a besoin d'un peu de solitude aussi. On a besoin de solitude et c'est possible de trouver cette solitude à Lourdes, paradoxalement, même s'il y a du monde. Et parfois, on a besoin aussi d'être justement, de retrouver du monde, retrouver d'autres personnes parce qu'on vit toute l'année isolé. Et c'est souvent le cas des personnes malades, notamment. Donc, tout dépend un petit peu de votre histoire. En tout cas, les deux sont possibles. Mais en fonction de ce que l'on est, de nos expériences, eh bien, choisissons le meilleur pour nous.
En tout cas, un groupe peut porter. Et puis permettre d'être tenu au courant de toutes les propositions qui sont faites. Il y en a énormément dans le sanctuaire et dans la ville de Lourdes.
C'est ça, et ça se prolonge aussi, c'est-à-dire que pour le pèlerinage national notamment, il y a tout au long de l'année des rencontres qui sont organisées pour les malades, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de conduire les personnes 4-5 jours par an et puis on ne se voit plus. Il y a tout un lien qui perdure tout au long de l'année. On a une hotline qui permet aux malades, je peux peut-être donner le numéro si c'est possible.
Qu'est-ce que c'est qu'une hotline ?
Alors c'est un numéro qui permet de répondre à toutes les questions que les personnes malades voudraient poser autour de ce pèlerinage. Pour savoir est-ce que je peux venir, comment ça se passe, est-ce que c'est compliqué. Confier toutes les inquiétudes possibles et imaginables. Non pas qu'on a nécessairement une réponse à tout, mais en tout cas vous serez écouté. Et trouver des solutions par rapport à votre situation.
Une demande particulière.
Exactement. Alors je donne peut-être le numéro.
C'est le moment.
Alors c'est le 01 82 83 23 19. Ou bien par mail malade@pèlerinage-national.org.
Voilà, on fait rarement ça dans Halte spirituelle, mais là, il s'agit de Lourdes. Donc, aucun problème, au contraire, parce que pour conclure ces entretiens, il est peut-être important de dire que s'il ne faut peut-être pas s'attendre à un miracle au sens où on le comprend habituellement, est-ce qu'on peut quand même dire qu'on revient rarement de Lourdes exactement comme on y est arrivé ?
Ben je le pense. Encore une fois, chacun répondra à la hauteur de son expérience. Mais quand vous avez libéré le bon et la bonté en vous, en vous mettant au service de quelqu'un, que ce soit à Lourdes ou ailleurs, quand vous vous sentez utile à quelqu'un, quand vous donnez du sens à votre vie, et par ailleurs et en face, d'une certaine manière, quand une personne se sent exister, retrouve une forme de dignité, on m'a parlé. Vous savez, je me souviens de ma toute première confession que jeune prêtre j'ai vécu, et c'était à Lourdes, j'étais ordonné fin juin et le pèlerinage au mois d'août. Et c'était une dame en fin de vie, hein, 90 ans. Alors moi j'imaginais une confession, voilà, on va me raconter des petits trucs habituels. Et là, qui me dit, écoutez, moi, voilà, j'ai vécu une vie finalement que je n'ai pas voulu vivre. J'ai épousé un homme que je n'ai jamais aimé, mais c'était comme ça. Il fallait pour exister en tant que femme dans le milieu dans lequel j'évoluais, se marier, avoir des enfants. Mais ces enfants, je ne les ai pas voulu. Ma vie est un échec de bout en bout. Alors je vous assure, quand on est jeune prêtre, quand on découvre ça d'une dame qui a trois fois votre âge, et on se dit, pourquoi moi? Et cette dame, à la fin de cette confession, me dit, mais Lourdes, finalement, au moins je mourrai, puisque encore une fois à 90 ans, elle savait bien que la plus grande partie de sa vie était plutôt derrière elle, je mourrai en ayant pu le dire et en ayant été écouté. J'ai plus jamais confessé de la même manière, ou du moins abordé une discussion avec quelqu'un, parce que je me dis, mon Dieu, l'importance de ce que l'on peut dire dans ces moments-là. Donc, j'imagine, moi, en tout cas, j'étais changé, et c'était alors. Moi, j'ai été changé. En tout cas, c'est clair, c'est juste une petite anecdote, mais pour moi qui compte, et pour elle aussi, quoi. Donc, quelque chose dans nos vies, à elle et à moi, ont changé. Et donc, à la question, est-ce qu'on rentre chez soi différent, ou est-ce qu'il y a des petites choses qui bougent, je le crois à la hauteur de chacun. Encore une fois, ne serait-ce que parce que vous avez pu libérer la bonté qui est en vous mettant au service de personnes. Et c'est pas si commun que ça. Bien sûr, dans les familles, on se met au service de des gens qu'on connaît, voilà. Mais là, c'est des gens que vous connaissez absolument pas. C'est une personne qui a besoin de vous, et c'est pas du chiquet. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne lui donnez pas à manger, à une personne qui est IMC, si vous ne l'aidez pas à manger, elle le fera pas, ou elle ne boira pas, ou voilà. Et donc c'est urgent cette affaire. C'est pas du vernis. Et de fait, quand on veut vivre sa foi, ou parfois, on fait une petite action caritative en donnant la petite pièce en sortant de chez le boulanger parce qu'on voit quelqu'un qui tend la main dans la rue, et puis voilà, on est quitte. C'est très important de le faire, mais bon, voilà. Là,
vous payez, ça engage.
Ouais, on paye de sa personne. Et une personne qui se souviendra de vous, et puis vous donnerez votre prénom, et elle le donnera le vôtre. Et pourquoi pas, il y aura peut-être un lien qui continuera. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout au long de l'année, les liens continuent avec ces personnes. Donc on les retrouve, on se souhaite un joyeux Noël, on attend un coup de fil, enfin... Il y a une relation qui se bâtit, et la relation, c'est quelque chose de l'évangile qui se vit.
Et après, ça se diffuse par capillarité, finalement, parce que le monde entier ne va pas à Lourdes. Lourdes est un concentré du monde entier, on l'a déjà dit, mais ça reste finalement anecdotique.
C'est peut-être une petite goutte dans la mer, hein, ça c'est sûr, c'est peut-être pas grand-chose, mais la petite goutte, qu'elle soit là ou pas là, ça en fait une petite goutte en plus ou en moins, il y a quand même une différence. Même si c'est ténu, si c'est petit, j'ose croire que dans tous les lieux où les pèlerins rentrent chez eux, dans leur maison, dans leur ville, dans leur village, dans leur lieu de travail, dans les relations, s'ils emmènent un petit peu de cette fraternité qui se vit là, modestement, sans doute, mais oui, j'ose croire qu'on participe au changement du monde. Oui.
Le message de Lourdes, Sébastien Anthony, c'est encore raisonnable d'y croire ou assez daté ?
Alors, de fait, encore une fois, en prenant le message, en s'en tenant simplement à l'apparition elle-même, disant voilà, c'est histoire de Cosette, voilà, des petites choses comme ça par rapport à Bernadette, voilà. De fait, on pourrait se dire qu'on n'est pas concerné. Mais même l'Évangile, c'est une vieille histoire de 2000 ans, vous savez. Et pourtant, ça nous concerne encore parce que fondamentalement, c'est toujours le cœur du cœur de notre humanité qui est ici révélé. La capacité de servir un autre, de vivre en fraternité, d'exister pour quelqu'un, d'exister soi-même aussi, de donner du sens à son existence, peu importe comment ça se traduit, Lourdes, c'est une histoire, un lieu. Et alors, il se trouve qu'il est ultra célèbre et très très couru, c'est vrai, mais il y en a plein d'autres qui existent, pourvu que l'on... C'est un petit peu comme les cailloux du petit pousset, si vous voulez, qui permettent dans ce monde de savoir à peu près où on en est, de retrouver une roue, de se repérer. Et si on a celui-là, si on sait que là, ben, on se sent à la maison, accueilli, exister, ben non, c'est pas dépassé, c'est bien la quête de tout homme, de toute femme, je crois, aujourd'hui, et depuis toujours, c'est le sens de toute notre existence. Aimer, être aimé, reconnu, exister.
Et aux personnes qui hésiteraient encore, qui seraient tentées de le faire, ce pèlerinage, mais qui ont une appréhension, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ?
Je le dis en souriant, mais je crois que ça me va de dire ça comme ça. J'ai pas mieux que Jésus, en fait. J'ai pas mieux que Jésus, au début de l'évangile, qui dit, ben, venez, voyez.
Oui, voilà. Mais là, c'est pas Jésus, c'est Marie.
C'est pas loin. Marie non, conduit ça, Marie, ouais. Marie conduit à son fils. Marie s'efface, en fait. Marie s'efface. Elle dit pas de venir là pour elle. Dans tout son message, de dire en gros de se laver, de boire à la source, il y a l'idée du baptême derrière, de vivre quelque chose de la relation avec le Christ. Dans venir ici en procession ou de bâtir une chapelle, c'est pas simplement de monter quelques pierres, c'est de vivre les sacrements, c'est de vivre un lieu de prière. Évidemment, les mots sont simples, les mots sont courts d'une certaine manière, mais ils peuvent se développer dans leur sens. Venir en procession, c'est faire église, c'est construire l'église, c'est construire ce peuple de Dieu. Enfin, encore une fois, Marie, avec peu de mots, dit beaucoup plus. Comme l'Évangile, avec peu de mots, finalement, peut remplir tout le sens d'une vie. Et c'est ce qui se passe à Lourdes. Donc, certes, c'est Marie qui fait la messagère ou la factrice, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, c'est un message qui... Elle peut le dire parce qu'elle l'a vécu elle-même, en fait. C'est Marie, c'est la première de cordée, c'est la première en chemin. C'est celle qui, en gros, nous dit, moi j'ai fait, moi ça m'a rendu heureuse, faites-en autant. En gros, c'est pas quelqu'un qui... Je vois pas Marie comme ça, en tout cas, comme une madone nous surplombant.
Ou une déesse.
Une déesse. Non, c'est j'ai vécu cette expérience de Dieu. Avec toutes les souffrances que l'on connaît dans l'Évangile, la mort d'un fils, je pense qu'il n'y a pas plus tragique, sans doute pour une mère. Elle l'a vécu, elle l'a connu, et d'autres choses encore. Des joies, évidemment aussi. La vie de Marie n'est pas qu'une suite de catastrophes. Mais toujours avec comme fil conducteur de compter sur Dieu. Et finalement, à Lourdes, elle nous dit la même chose. Faites-le vous aussi. Et si Bernadette a ces mots, moi je suis juste chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. Et même d'une certaine manière, je crois que Marie pourrait tout à fait épouser ces mots. Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. Après, chacun vit cette expérience. Donc encore une fois, oui, je reprends ces mots de Jésus, venez et voyez. C'est chacun qui peut en faire vraiment l'expérience.
Un très grand merci Sébastien Anthony.
Merci à vous.
De nous avoir... permis de découvrir ou de redécouvrir le sens de ce pèlerinage à Lourdes, sachant bien sûr que les auditeurs sont très largement invités à y participer, en particulier lors du pèlerinage national qui a lieu chaque année autour du 15 août. Je rappelle que vous êtes le directeur national de ce pèlerinage.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.